C'est mercredi et comme chaque mercredi sur Radion, le moment est venu de retrouver Wagon Livre. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous, 90.5 dans le département de l'Yonne ou aux quatre coins de la Bourgogne ou de France sur le www.radion.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour le compte-rendu de la 20e fête du livre d'Autun. Grande manifestation qui s'est tenue les 8 et 9 avril dernier, une manifestation organisée par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois qui offre au public, plus de 10 000 visiteurs le temps d'un week-end, la possibilité de rencontrer plus d'une centaine d'écrivains et d'éditeurs qui ont répondu présents aux invitations de cette manifestation qui fait d'ailleurs d'Autun le temps d'un week-end la plus grande librairie éphémère de Bourgogne. Alors, ce soir, nous vous offrons donc la dernière partie du compte-rendu de cette fête du livre d'Autun, compte-rendu non exhaustif, bien sûr, parce qu'il n'est pas possible de donner la parole à chacune et chacun. Mais ce soir, nous avons tendu notre micro à Bruno Doucet. Bruno Doucet, créateur des éditions Bruno Doucet, il est poète et éditeur de poètes et avec lui nous aurons l'occasion de revenir à la fois sur l'histoire de sa maison d'édition, la richesse de son catalogue et la diversité des collections qui font des éditions Bruno Doucet à l'heure actuelle une des plus grandes maisons d'édition de poésie francophone. Nous avons également rencontré le journaliste de France Info et romancier Bernard Thomasson, il nous présentera son dernier roman, mais sans plus tarder, nous allons prendre un peu de hauteur avec Colline Berry. Colline Berry signe aux éditions Le Passeur un travail absolument délicieux qui met en valeur le parcours et le destin exceptionnel d'une femme libre. Cette femme, c'est Adrienne Bolland, aviatrice, et cet essai, d'ailleurs, a pour titre « Adrienne Bolland ou les ailes de la liberté », le destin exceptionnel d'une femme libre, 1895-1975, avec une préface de Pierre Bellemare. Et bien, pour en savoir un peu plus sur Adrienne Bolland, sans doute méconnue ou oubliée, tout de suite, explication par Colline Berry.
Pionnière à bien des titres, et puis c'est surtout notre seule aviatrice qui est née en même temps que l'aviation en 1895 et qui est allée finalement au-delà de la fusée et de son alunissage en 1969. C'est ça ? On est d'accord. Jusqu'en 1975, où elle est morte. Donc, au moment où le Concorde prenait son envol, le Concorde étant franco-anglais et Adrienne Bolland étant franco-belge. Nous sommes en pleine Europe déjà, dès le début finalement et dès le début de l'aviation.
Alors, Colline Berry, ce qu'il faut dire, bien sûr, on va mettre de côté un petit peu les origines familiales, bon, qui sont plutôt très bourgeoise, très aisée.
C'est une exception, puisque toutes les aviatrices, c'était une des rares, du coup, à ne pas surfer sur l'aspect grande bourgeoisie terrienne de sa famille, alors qu'elle aurait pu en profiter.
Alors, Adrienne Bolland, donc, dès 1919, manifeste une envie très, très violente de devenir aviatrice. Mais on ne devient pas aviatrice aisément en France au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Absolument. D'autant plus qu'il n'y a que trois écoles qui sont ouvertes aux femmes. Une se situe non pas ici, les Molineaux, mais en Baie de Somme, en Picardie, au Crotoy. Une autre est à Clermont-Ferrand. C'est parce que j'ai habité dans l'Hérault, donc c'est pour ça. Et la troisième est près de Nice. Adrienne Bolland étant parisienne, est vraiment parisienne, avec de la famille dans le Loiret, à Orléans, mais enfin basée à Paris à ce moment-là, au moment de cet après-guerre et de choisir entre le mariage et l'indépendance financière, décide finalement qu'un sport de haut niveau très dangereux devrait lui faire éviter le monde des femmes qui est quand même bâti autour du mythe du mariage et des enfants. Ce à quoi, non seulement elle ne correspond pas, mais elle n'arrive pas à correspondre à ça. Et l'appel de cette vocation de l'aviation vient grâce au jeu finalement qui fait comme un détour pour lui interdire des pensées vers le mariage qu'elle ne veut pas. Donc jouer est une façon d'exprimer sa rébellion après-guerre, surtout puisqu'on est en 1919. Et le coup de chance, ou la vocation, ou le destin, ou le hasard, qui n'existe pas, d'après les aviateurs en tout cas, fait qu'en effet, l'aviation va la capter et va la cadrer également, c'est ce qu'elle dira. Elle dira toujours que l'aviation lui a appris aussi à vivre. Et donc elle la découvre comme une néophyte que nous sommes tous, parce que nous ne savons plus qui était Adrien Boland, mais on sait encore moins ce qu'étaient les débuts finalement de l'aviation. Pour un jeune qui arrivait et qui voulait faire ce métier de haut niveau, de haute technologie, au début du siècle.
Alors, elle a tout de même une devancière en la personne de la baronne de La Roche, qui elle est restée célèbre dans l'histoire de l'aviation parce qu'elle marque le premier record féminin d'altitude, donc c'est 4800 mètres. Et cette baronne de La Roche donc, va mourir accidentellement. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est les conditions aussi matérielles de l'époque. C'est pas on n'a pas affaire à des avions avec des fuselages robustes. C'est vraiment, je ne sais pas si je peux dire, la préhistoire de l'aviation. J'exagère un peu.
Tout à fait. Non, il ne faut pas, il faut pas être arrogant avec l'aviation. Elle est née c'est une technique toute jeune, en 1920. Elle a le même âge qu'Adrien Boland, c'est-à-dire qu'elle a 20 ans, sauf qu'elle a connu une guerre. Ça veut dire qu'elle s'est améliorée, entre guillemets, pour tuer les hommes, ce qui la distingue. Ce qui va faire la césure, on va dire, carrément de cette technique, qui était auparavant une technique qui offrait des faucheurs de marguerite, qui offrait des Santos Dumont et des demoiselles, des Antoinettes, avec des choses, une vision très, très, très belle époque. Et la belle époque est terminée. Et après cette Première Guerre mondiale, être une femme est un atout. Est un inconvénient, mais est un atout. C'est-à-dire que les femmes sont plus légères, les femmes sont plus agréables pour un sponsor parce qu'elles rapportent plus d'argent en termes de visibilité. Et donc Adrien Boland va rentrer dans un système dont elle ignore tout, parce qu'elle ne connaît ni l'industrie, aucune industrie, ni aucune culture, parce qu'elle n'a que son certificat d'études, même en étant de bonne famille, comme la plupart des jeunes filles de l'époque. Donc il est bien évident que quand vous arrêtez vos études à 14 ans, vous êtes d'une naïveté sans fin, malheureusement, ou qu'il y a une finalité qui est votre apprentissage, en espérant que vous n'y laissiez pas votre peau. Et la baronne de La Roche y a laissé sa peau lors d'un looping sur la plage du Crotoy, en G3, dans le même appareil, qui apprendra à Adrien Boland à maîtriser la portance de l'air.
Alors, notre Adrienne Boland passe son brevet de pilote le 26 janvier 1920. Et quand bien même elle a ce brevet, il lui faut faire sa place et trouver sa place dans un univers très masculin.
Oui, très masculin et post-militaire et post-guerre. Donc ça veut dire traumatiser des jeunes hommes parce que toute sa génération, elle va rencontrer sa génération. C'est comme si aujourd'hui je décidais de faire du base jump et que je décide de battre des records. J'aurais en face de moi certainement beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes peut-être de mon âge mais qui auront vécu à peu près les mêmes épreuves. Et là, ce qui est beau, c'est qu'elle va rencontrer, c'est qu'elle dira de chouettes camarades, de très très bons copains, c'est-à-dire bien sûr des gens qui ne l'aiment pas, des hommes qui décident aussi que si elle veut régner comme eux, il faut qu'elle fasse ses preuves comme eux. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle aura droit à plus qu'un homme. Et c'est sain pour elle, parce que ça la remet à sa juste valeur. Et donc elle va se battre et elle va se découvrir non seulement mordue de cette technique, parce que je rappelle quand même que être baptisé dans un avion torpedo sans rien autour de vous, entre le ciel, les oiseaux, l'air, le vent et l'espace, c'est une expérience émotionnelle, encore aujourd'hui, qu'on ne connaît pas, puisque tous les avions ont une carlingue fermée. Mais quand vous volez dans un ancien biplan, je le souhaite à tout le monde, allez dans les aérodromes et essayez le plus possible parce que c'est fantastique.
Alors on avance un peu dans le parcours de Adrienne Boland. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc d'un travail de recherche. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas un roman. C'est Adrienne Boland ou les ailes de la liberté. C'est aux éditions Le Passeur sous la plume de Colin Berry. Alors en 1920, là c'est vraiment la belle et noble aventure. C'est une conquête.
Oui, conquête. Première conquête. D'abord, il va falloir qu'elle s'habitue à avoir un contrat de travail, puisque c'est la première convoyeuse d'avion abîmé, d'ailleurs. C'était un métier très dangereux. Et elle va râler très vite. Au bout de 4-5 mois, en 1920, elle va prévenir qu'il va falloir qu'elle fasse autre chose que d'être simplement livreur d'avions abîmés. Et donc, René Caudron, son employeur, sponsor et petit ami, puisque ça s'est avéré aujourd'hui sur archive, il a 10 ans de plus qu'elle pour situer. Elle a 25 ans, il en a 35. Il est très beau, elle est très belle. C'est le côté romanesque. Mais en tout cas, loin du romanesque, il faut faire des meetings. Et il la paiera plus si elle fait des meetings, plus si elle fait des records. Et l'aviation n'implique qu'une seule loi, c'est le dépassement. C'est-à-dire, soit elle restait pilote, soit elle décidait d'aller vers les records, vers les exploits, et donc vers la mort. Puisque voler, c'est jouer le paradoxe, vivre entre deux paradoxes, et peut-être vivre comme un oiseau, mais peut-être mourir comme un homme, parce que les oiseaux se cassent rarement la figure comme nous.
Alors ensuite, j'ai parlé de conquête, c'est la traversée de la cordillère des Andes. Alors ça, c'est le 1er avril 1921, et ce n'est pas un poisson d'avril.
Non. Alors, malheureusement, quand elle a compris que la météo n'avait pas choisi ce jour-là, d'autant qu'on est à ce moment-là, on est non seulement vers la cordillère des Andes, mais donc en Amérique du Sud, et que les saisons sont inversées. Non, l'Europe n'est pas le centre du monde, et en Amérique du Sud, si on inverse tout, au mois d'avril, nous arrivons presque à la fin de l'automne, et les vents de ce côté-ci de la cordillère des Andes sont très très forts. Donc décider de passer à ce moment-là de l'année, c'est le dernier moment, puisqu'après c'est l'hiver, elle ne pourra plus passer, il n'y a plus de vol après. Donc traverser le 1er avril, en effet. Record du monde, un jour de poisson d'avril.
Alors, elle parcourt 250 km de montagne entre Mendoza et Santiago du Chili. Et là aussi, ce sont des cols de plus de 4000 mètres d'altitude.
Oui, dans la vallée dans laquelle, le chemin par lequel elle décide de passer, je vous invite à aller sur Google Earth et de partir de Mendoza et de trouver Santiago. Et vous trouverez cette grande vallée qui s'arrête, qui fait un point sur Uspallata et qui est très très belle d'ailleurs, qui est énorme, puisqu'on arrive à des vallées qui font 600 km de largeur. On a du mal en France, ça représente. Les Andes, ce seraient les Alpes deux fois plus hautes et malheureusement pas du tout avec la même densité de vent. Et le fait de passer ce 1er avril, ces montagnes, ce col à 4300 mètres, mais en 4h15, et de ne pas mourir, mais elle ne pouvait pas faire demi-tour, je le précise également, marque imprime un choc non seulement à toute l'Amérique du Sud mais au monde entier, puisqu'en fait non seulement personne n'avait osé, mais ceux qui avaient osé dans des moteurs avec des moteurs aussi petits étaient morts, et c'était tous des hommes. C'était la huitième à réussir à passer, mais aucun n'était passé par là, aucun n'avait réussi par là.
Alors ensuite on la retrouve dans les années entre 1925-1930. Alors elle a acquis un peu ses lettres de noblesse en tant qu'aviatrice, hein, je crois qu'elle est même une aventurière reconnue, et elle va, pour la République française, organiser la promotion de l'aviation française, une sorte de promotion d'une aviation populaire même.
Absolument, ça s'appelait comme ça, l'escadrille Mamet était promue sur le papier en tout cas pour faire le tour de France et montrer et cultiver les Français et à leur apprendre ce que c'était l'aviation et faire en sorte que les jeunes viennent à l'aviation sans aucun a priori et sans aucun préjugé, sans aucune peur, même si évidemment c'était difficile. Faire en sorte qu'il y ait des aviateurs pour les années qui viennent. Puisque je rappelle quand même qu'on ne vole que depuis 120 ans et que c'est une donnée tout à fait neuve. Jamais aucun être vivant n'a osé capturer la technique d'un autre à ce point-là.
Alors Adrienne Bolland deviendra ambassadrice d'Air France durant 30 ans. Elle a eu un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça, pendant l'occupation, ça, j'invite nos auditrices et auditeurs à se procurer votre ouvrage, dont je rappelle le titre, hein, Adrienne Bolland ou les ailes de la liberté, c'est présenté par Pierre Belmar, c'était aux éditions Le Passeur, et elle meurt donc en 1975, l'année où la France fait le premier voyage en Concorde, inaugure le premier voyage en Concorde.
Oui, quasiment, et je précise que si j'ai eu le plaisir d'avoir une préface de Pierre Belmar, c'est parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui en a parlé le premier, en fait, en 1978 dans un livre, et donc en fait C'est important d'être un conteur contemporain, c'est-à-dire de replacer et de rappeler certains faits et en retrouvant cette femme qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez au Chili, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez au Vietnam ou au Japon, vous pouvez dire très fièrement que vous êtes française et que vous connaissez Adrienne Bolland. Dans certains pays, vous aurez peut-être même le directeur d'un musée de l'air qui viendra vous voir et vous féliciter parce qu'il n'y en a eu qu'une seule et que j'aimerais beaucoup que la France... s'amuse avec Adrienne Bolland, quand on sait que Pierre Dac était son meilleur ami, et c'est pas pour rien. Voilà.
À l'instant, c'était Colline Berry pour Adrienne Bolland ou Les ailes de la liberté, un ouvrage que vous pouvez commander chez votre libraire aux éditions Le Passeur. Adrienne Bolland ou Les ailes de la liberté, le destin exceptionnel d'une femme libre, 1895-1975, un ouvrage préfacé par Pierre Bellemare. Très bonne soirée à l'écoute de Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On marque tout de suite, si vous le voulez bien, un premier temps de pause musicale et nous poursuivrons, bien sûr, le compte-rendu de la 20e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 8 et 9 avril derniers. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nous voici revenus à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire pour le compte-rendu de la 20e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 8 et 9 avril dernier. Alors comme je l'avais annoncé, nous avons tendu notre micro à Bruno Doucet. Bruno Doucet a longtemps dirigé les éditions Segers et puis il y a quelques années, il a créé sa propre maison. Ce sont les éditions Bruno Doucet, née en 2010. Bruno Doucet, poète et éditeur de poètes, revient sur la création de cette maison d'édition qui est à l'heure actuelle une des plus grandes maisons d'édition de poésie francophone.
Je m'appelle Bruno Doucet, je suis poète, éditeur de poètes. J'ai donc deux métiers, j'écris des livres, poésie, romans, essais, nouvelles, mais aussi je publie des livres, de poètes du monde entier. Lorsqu'un enfant de 10 ou 12 ans me demande « Mais c'est quoi ce métier poète, éditeur de poètes ?» Je lui réponds « C'est être deux fois pauvre, mais aussi deux fois riche.
Je comprends le sens, mais justement, en parlant de richesse, Bruno Doucet, vous avez dirigé, vous avez été directeur littéraire des prestigieuses éditions Segers, qui ont été rachetées par un groupe espagnol, me semble-t-il, et qui finalement s'est séparé un peu de ce fonds prestigieux.
Oui. Alors moi, j'ai eu la chance de diriger les éditions Segers de 2002 à 2009, d'être chargé de la relance de cette marque après 20 années de silence, on va dire de fermeture, de blackout. C'était pour moi vraiment une aventure extraordinaire puisque j'avais grandi adolescent avec les livres des éditions Segers, avec les livres de la collection Poète d'aujourd'hui, la collection Autour du Monde. Les premiers poètes que j'ai découverts, au fond, c'était des poètes publiés par Pierre Segers. Malheureusement, cette aventure pour moi s'est achevée à la fin des années 2000, lorsque le groupe catalan Planeta, qui avait des ambitions, ou qui a des ambitions planétaires, n'est-ce pas, a racheté 45 maisons d'édition françaises, dont la petite et très ancienne maison fondée par Pierre Segers. On m'a notifié assez rapidement mon départ, arguant du fait que la poésie n'était pas compatible avec la crise. Je leur ai dit, mais c'est exactement le contraire. Vous savez, c'est lorsque les êtres et les sociétés, les civilisations sont en crise, que la parole des poètes devient absolument fondamentale. On m'a répondu que non, on ne se comprenait pas. J'ai résisté pendant quelques temps et puis je suis parti. Non sans avoir rappelé dans quelles conditions les éditions Segers étaient nées. Je me souviens avoir dit, dans ce qui était pour moi ma dernière réunion publique avec les dirigeants du groupe catalan Planeta, que les éditions Segers, le cœur des éditions Segers, avait commencé à battre quand celui de Lorca, Federico Garcia Lorca, s'était arrêté sous la mitraille franquiste. Disant cela, je savais à qui je parlais, puisque autrefois, les éditions Planeta avaient été fondées par Franco et un de ses amis très proches qui avait élaboré pour lui des programmes pédagogiques en littérature et en histoire et qui avait fourni la dictature franquiste en manuel pédagogique, en manuel scolaire. Voilà d'où vient la fortune qui a permis de racheter tant de maisons françaises.
Bruno Doucet, justement, au début de l'entretien, d'ailleurs, la phrase m'a laissé sans voix, vous êtes deux fois pauvre et deux fois riche. Comment s'y prend-on pour créer sa propre maison d'édition quand on va voir le banquier?
Alors, vous savez, il faut réunir deux qualités.
Moins qu'on n'aille pas voir le banquier.
Je vais assez peu voir le banquier. Alors, moi, je ne dispose pas de fortune personnelle au départ. Simplement, je pense avoir deux qualités qui sont rarement compatibles chez les individus. À la fois la tête dans les étoiles, parce que si vous ne pensez pas que la littérature, c'est la forme privée d'une utopie, si vous ne rêvez pas de changer le monde ou de changer le regard que l'on porte sur le monde, si vous ne côtoyez pas un peu les étoiles d'une manière ou d'une autre, c'est pas la peine de faire ce métier. Et en même temps, il faut avoir un vrai bon sens paysan, du pragmatisme à revendre et j'allais dire des chaussures de plomb pour être bien rivé à la réalité. Donc je pense avoir les deux. Parfois, ça me donne une espèce de lombalgie comme ça, presque mentale, j'allais dire. Mais j'essaie de tenir ces deux choses ensemble. Le pragmatisme éditorial, le bon sens, et puis en même temps, l'idéalisme, cette part de rêve sans laquelle on ne peut rien faire de valable.
Alors, j'aime bien les semelles de plomb qui me font penser aux rimbaldiennes semelles de vent. Alors, la maison d'édition Bruno Doucet est née en 2010, c'est bien cela, Bruno?
Exact.
Et combien de poètes publiés à ce jour? Le catalogue, en tout cas, je le vois à travers l'infolettre que je reçois par mail, elle est francophone,
oui.
Et pas que franco-française.
Alors,
vous êtes un des plus grands éditeurs de poésie francophone, Bruno Doucet.
Écoutez, merci, ça me touche beaucoup. Nous publions en moyenne une vingtaine de livres par an, c'est considérable. Donc, à ce jour, nous sommes en train de préparer le 120e titre de la maison d'édition. Nous ne publions que des poètes du monde entier. Ils viennent vraiment de tous les territoires. les territoires de l'outre-mer français, la Réunion, la Martinique, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai publié des poètes de tous ces territoires, mais aussi bien au-delà du monde francophone. Nous avons publié des poètes coréens, australiens, des poètes en Innu Aimun, qui est une langue amérindienne Innu. Ça, c'est inouï de faire cela, de publier une poète qui est aussi une chamane dans son pays, qui vit à la limite de Terre-Neuve et du Grand Nord québécois. Et bien voilà, nous l'avons publiée dans sa langue, avec la traduction en français, avec une merveilleuse préface de Jean-Marie Le Clézio. Et bien ce livre que nous avons tiré à 2000 exemplaires, nous en avons quasiment épuisé le tirage. Vous voyez ? Alors, combien de poètes ? 120 livres, mais au total, peut-être pas loin d'un millier de poètes. Je n'ai pas compté parce que nous publions de très nombreuses anthologies dans lesquelles parfois, comme nous venons de le faire pour l'Afrique, eh bien nous avons 100, 120, 130 poètes. C'est ce que nous faisons également chaque été au Festival des Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée à Sète, où nous accueillons chaque été une centaine de poètes du pourtour méditerranéen. Ça représente quand même une quarantaine de pays, à peu près 20 ou 25 langues parlées et publiées dans notre anthologie estivale. Voilà, donc c'est une aventure formidable.
Alors les éditions Bruno Doucet ont failli s'appeler les éditions S'il existe un pays.
Oh, alors là, vous savez tout. Ah oui, c'est même peu de gens le savent. Oui, je voulais appeler ma maison d'édition S'il existe un pays. Mais quand je suis allé voir un banquier, celui-ci m'a dit « Mais ce n'est même pas une phrase complète. Vous êtes écrivain et vous voulez publier des écrivains. Et votre ce nom-là, que signifie-t-il ? C'est très étrange. C'est très étrange. » Et puis, beaucoup de... Alors, ce titre, je l'ai gardé. Enfin, j'en ai fait le titre d'un de mes recueils, publié en 2013. C'était, je crois, le 50e livre de la maison d'édition. Donc, il avait une sorte de valeur emblématique. Et puis, la maison d'édition, bah, sous la pression de mes partenaires, de mes auteurs, de mes amis éditeurs, mais aussi des libraires, etc., bah, j'ai fini par lui donner mon nom. Voilà, édition Bruno Doucet. Il faut bien donner un nom à ce que l'on crée. C'est pas toujours évident d'être à la fois écrivain sous ce nom, éditeur également, mais voilà, j'assume.
Bruno, la caractéristique aussi de la couverture de votre maison d'édition Bruno Doucet, c'est ces diagonales qui assurent la couverture. Vous pouvez en rappeler les symboliques, parce que je vous ai entendu déjà en parler, mais j'aimerais que vous le disiez aux auditrices et auditeurs de Radion.
Alors, vous savez, lorsque vous créez une maison d'édition, vous avez, parce que personne ne vous attend, il faut sortir une maison d'édition, sort du néant, comme un livre. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous imitez sur le plan graphique, de l'identité graphique, une maison d'édition que vous admirez, une collection blanche avec un liseré rouge ou vert, bon, voilà. Ou bien une couverture comme une fenêtre ouverte sur le monde, façon Actes Sud. Ou alors vous vous affranchissez de ces modèles et vous essayez de faire quelque chose que les autres ne font pas. Et ce qui n'a jamais été vraiment travaillé dans l'édition, d'une manière générale, c'est la diagonale, parce qu'elle est très difficile à maîtriser. Une couverture, en général, c'est à la fois des titres horizontaux sur un format vertical. La diagonale vient faire vibrer tout cela, et donc nous avons fait ce choix. Tous nos livres ont cette identité graphique très colorée, avec quatre couleurs au minimum, qui se croisent, qui s'interpénètrent dans un tramage en diagonale.
C'est la diagonale du fou.
C'est la diagonale du fou, complètement.
De poésie.
Bien sûr. Et vous savez, la diagonale, c'est la plus longue ligne dans un carré. C'est ce qui suggère le mouvement. Celui-là, il est un peu comme ça, ascensionnel, ce mouvement. Et nous sommes fidèles à ces couvertures. Alors, elles plaisent ou ne plaisent pas, en tout cas, elles sont immédiatement identifiées comme étant notre identité graphique.
À l'instant, à notre micro, c'était Bruno Doucet. On le retrouve d'ailleurs dans quelques minutes, juste après la pause musicale, pour poursuivre la conversation que nous avons enregistré avec lui à Autun le 9 avril dernier, à l'occasion de cette 20e fête du livre qui fait d'Autun le temps d'un week-end la plus grande librairie éphémère de Bourgogne. Très bonne soirée à toutes et à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Nous marquons une nouvelle virgule musicale à bord de votre émission culturelle.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passou de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? E do lado esquerdo do peito, no fundo ainda me quer bem essa moça.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Merci de nous être fidèles pour ce compte-rendu de la 20e fête du livre d'Autun. Nous retrouvons le poète et éditeur de poètes Bruno Doucet, créateur de la maison d'édition Les Éditions Bruno Doucet. J'ai demandé d'ailleurs à notre poète et éditeur de poètes si l'école ne donnait pas une image un peu trop académique ou parfois intimidante de la poésie, puisque la poésie, nous avons toutes et tous un rapport particulier avec la poésie, celle que nous avons apprise à l'école et que nous récitions pour avoir une bonne note. Eh bien, Bruno Doucet a d'ailleurs sa petite idée en ce qui concerne l'enseignement de la poésie ou l'approche de la poésie à l'école, au collège ou au lycée.
C'est un point sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Alors bien sûr, il y a ces récitations annonées de l'enfance où, dont on ressort parfois à l'âge adulte en pensant que la poésie ne sert qu'à étirer l'élastique de la mémoire. Et puis il y a aussi cette impression que l'on a que la grande poésie française hexagonale est difficile à lire, qu'elle s'adresse à des gens lettrés, qu'elle est écrite par des lettrés et qu'elle est hermétique. On a même parfois le sentiment que le credo des poètes, c'est « je ne suis pas lu, je ne suis pas compris, je ne suis pas aimé, voyez comme je suis génial ». Alors moi, je m'inscris évidemment en faux par rapport à cela. Je pense que la poésie, c'est le chant de l'homme, dans ce qu'il a de plus universel, à la fois intime et partagé, que la poésie doit s'adresser au plus grand nombre, qu'il faut ouvrir la porte de la poésie au plus grand nombre. Je n'ai pas peur de dire que je m'inscris dans l'héritage de ce qu'on appelait autrefois l'éducation populaire. En ayant bien ceci en tête, ce n'est pas parce que nous nous adressons au plus grand nombre qu'il faut renier, couper les ailes de nos exigences artistiques, esthétiques, éditoriales. Donc il y a là une tension dans laquelle nous sommes, avoir le plus haut niveau d'exigence possible, mais en même temps être en situation d'ouverture. Ben, cela passe essentiellement par cette défense des poésies du monde, parce que les travers que j'ai pointés pour la poésie, on va dire française, hexagonale, nos voisins ne les connaissent pas. C'est très différent ailleurs. Et puis, cela passe aussi par la défense d'une poésie qui n'aurait pas dissocié le lyrisme, cette transformation d'un cri intérieur en chant, l'engagement, la force collective. Et puis, cela passe surtout par la volonté d'aller au-delà de l'écriture, d'aller au-delà du livre, par le fait de considérer que publier un livre de poésie, si beau soit-il, ce n'est jamais que donner la demi-vie de la littérature à la poésie, qui a besoin d'une autre demi-vie, qui est la rencontre vivante avec un public, la voix, l'oralité, le passage par le corps, par la scène, en tout cas la mise en contact d'un auteur et de son auditeur.
C'est ce que vous demandez aussi beaucoup à vos auteurs pour la promotion, montrer, rendre la poésie vivante, qu'elle aille
Absolument.
À la rencontre de publics variés.
Absolument, et c'est la raison pour laquelle je vais, par exemple, l'année prochaine, publier un poète qui est un slameur, qui vit aujourd'hui au Sénégal. C'est la raison pour laquelle je vais publier Yvan Lemaine, qui est un poète qui vit en Bretagne, qui a 60 ans, mais qui depuis l'âge de 18 ans n'a pas fait d'autre métier que celui de dire les poèmes. C'est un diseur de poèmes. Voilà, nous associons la parole au chant, à la musique, parfois à la peinture. Il faut que ce soit le lieu d'une rencontre vivante et parfois joyeuse. En tout cas, nous pensons que nous ouvrons par la poésie un territoire fertile. C'est ça qui est intéressant.
Bruno Doucet, au sein de cette large et ample maison d'édition Bruno Doucet, dont je rappelle qu'elle a été créée en 2010, il y a une petite collection originale.
Ah oui, vous pensez sans doute à la collection Sur le fil, créée et dirigée par Muriel Zach, qui est une romancière très connue, notamment en littérature jeunesse. Muriel a créé cette collection pour nous faire rentrer dans des destins de poètes. Ce sont des romans historiques, des fictions, dans lesquels finalement nous ne nous intéressons qu'à l'histoire, à la vie de certains poètes, dont l'histoire personnelle croise la grande histoire. Vous savez, l'histoire qu'on écrit avec un grand H, ou parfois une grande H, comme on a pu le dire. Et pour l'instant, nous avons publié 4 livres dans cette collection. Un merveilleux livre de Didier Deninx intitulé « Caché dans la maison des fous ». Le fou qui se cache dans un asile psychiatrique n'est pas fou. C'est un poète, c'est Paul Éluard, qui, au cours de l'hiver 43-44, tente d'échapper à la police française, à la milice et à la Gestapo, parce qu'il est recherché, et va se cacher à Saint-Alban de Limagnole, dans un hôpital psychiatrique où il découvre la naissance de l'art brut, la psychiatrie institutionnelle, et puis surtout, il comprend que la folie est bien plus importante à l'extérieur, que l'asile psychiatrique est un lieu qui le protège de la folie des hommes, la folie qui s'est emparée du monde. Nous avons l'année suivante publié un livre intitulé « Les obus jouaient à pigeon vol », roman de Raphaël Jérusalmi absolument remarquable, qui raconte dans un conte à rebours haletant les 24 heures qui précèdent le moment où Guillaume Apollinaire va recevoir dans une tranchée un éclat d'obus en pleine tête. Moi-même, j'avais publié en 2015 le carnet retrouvé de Monsieur Max. Max étant Max Jacob, déporté au camp de Drancy en raison de ses origines juives, rattrapé par ses origines juives. Lui, le grand artiste, chevalier de la Légion d'honneur, converti depuis toujours au catholicisme. Mais voilà, il a des origines juives et un jour on vient le chercher. Son heure sonne. Au cours de l'hiver 44, on le conduit à Drancy. Il est évidemment dans l'incapacité d'écrire. Il va d'ailleurs y mourir quelque temps après. Et moi, je lui ai donné un carnet un petit carnet jaune qu'il va remplir farouchement, furieusement, avec une espèce d'humour d'échafaud et de rage intérieure. Évidemment,
et pourtant,
c'est une fiction.
Picasso avait quand même voulu le sauver.
Oui, alors Picasso a tenté de le sauver. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Mais évidemment, moi, je suis entré à la première personne comme si j'étais lui ou comme s'il était moi. Ce qui m'a autorisé à pas mal de fantaisie. Cette fantaisie était la sienne, vous savez. Mac Jacob, c'est un personnage tout à fait incroyable. Puis récemment, nous avons publié un quatrième roman de Nimrod. Nimrod, c'est un poète et romancier originaire du Tchad. Ce qu'il a publié, c'est « L'enfant n'est pas mort ». C'est une fiction qui met en scène une poète sud-africaine, Ingrid Jonker, que peu de gens connaissent ici, mais qui a croisé, ou dont Nelson Mandela a croisé le destin. Lorsque Nelson Mandela est sorti de prison, devant les premiers micros qui se sont tendus devant lui, il a commencé par dire un poème d'Ingrid Jonker. Et quelque temps plus tard, devenu président, lors de son investiture au Parlement sud-africain, il a réitéré sa démarche. De quel poème s'agissait-il ? Mystère, je laisse les auditeurs découvrir ce livre absolument formidable qui entrelace deux histoires. Donc, celle d'une poète dont le destin a été absolument tragique. Il faut savoir que, et celle de Nelson Mandela dont on connaît l'histoire. Mais il faut savoir que Ingrid Jonker était la fille d'un dignitaire du régime de l'apartheid et que ce père, écrivain raté, qui avait donc des frustrations d'auteur, est devenu responsable de la censure des écrivains. Et cette pauvre jeune femme va se fracasser contre le mur infranchissable que représente son père. Ça ne l'empêchera pas de laisser des poèmes absolument extraordinaires qui ont fait le tour du monde et qui, bizarrement, ne sont, pour ainsi dire, jamais arrivés en France. Donc, voilà, on espère faire découvrir le destin de cette poète sud-africaine.
Merci Bruno Doucet pour ces explications. Et puis, bien sûr, le site internet de la maison d'édition où l'on trouve tout le catalogue, où l'on peut même commander, j'imagine, directement depuis le site.
Non, on ne peut pas commander depuis le site. Voilà, j'allais dire que c'est un gage de loyauté à l'égard de nos amis libraires. On a la chance de vivre dans un pays où la librairie indépendante joue un rôle fondamental. Donc, voilà, soutenons les libraires. Allez en librairie et vous trouverez aisément nos livres qui sont distribués par un partenaire qui se nomme Harmonia Mundi.
Qui avait aussi une collection Le Chant du Monde.
Exactement, exactement. Mais qui aujourd'hui est engagé dans la défense du livre et notamment d'éditeurs indépendants.
Merci encore Bruno Doucet, merci.
Merci à vous.
Wonderful, wonderful life.
J'espère que vous passez une bonne soirée à l'écoute de Radion pour ce compte-rendu de la 20e fête du livre d'Autun. C'est le dernier reportage que nous vous proposons ce soir dans Wagon Livre. Nous partons à la rencontre de Bernard Thomasson, journaliste à France Info et romancier. Il nous présente son dernier roman, sorti il y a quelques mois en librairie. Bernard Thomasson.
Bonjour, je suis Bernard Thomasson, je suis écrivain et journaliste à France Info. Mon dernier roman s'appelle « Les fantômes du troisième étage » paru au Seuil au mois d'avril de cette année. C'est un roman auquel je tenais beaucoup parce qu'il parle de l'amitié, qui est une thématique que je voulais traiter depuis longtemps. Il se trouve que je n'ai pas, moi, de meilleur ami au long cours, mais qu'on peut très bien vivre sans aussi. Mais ça m'a interpellé parce que depuis que l'homme est homme, il construit l'humanité s'est construite autour de ça. Aller vers l'autre, la passion de l'autre. Je me suis dit pourquoi moi j'ai des amis, mais j'ai pas de personne que j'appellerai en cas de coup dur, de confident. Et donc j'ai amené dans ce bouquin tout un tas de réflexions qui... dans lesquels on peut se reconnaître, chacun se fera son opinion. Et pour construire tout ça, j'ai inventé une histoire très romanesque qui se passe à Miami. Miami qui est aussi une ville que je voulais utiliser comme décor pour un roman depuis un petit moment déjà, parce que je la connais bien. Et c'est une ville qu'on connaît de manière grand public, surtout par son côté festif, le rêve, les petites pépées en maillot de bain, etc. C'est un peu galvaudé tout ça, et Miami en réalité c'est aussi une ville où il y a de la pauvreté, il y a une histoire qui est un peu chargée, il y a l'immigration cubaine bien évidemment, mais pas que. Les Noirs par exemple, au moment de la ségrégation, quand Louis Armstrong venait chanter à Miami Beach, c'était déjà une star, il était obligé de revenir dormir dans un faubourg noir de Miami. Je raconte tout ça, et un mur s'est construit entre les quartiers blancs et les quartiers noirs bien avant le mur de Berlin. J'ai découvert ça aussi, et il existe encore aujourd'hui, les traces de ce mur, les fondations sont toujours visibles du côté de Miami. Donc voilà, c'est un roman qui raconte Miami, qui parle de l'amitié, avec une histoire d'une star de la télévision qui vient acheter une villa, il a perdu sa femme, etc. C'est très romanesque, beaucoup de fils qui se dénouent à la fin, c'est un thriller un peu psychologique.
Alors, ce n'est pas votre premier roman, Bernard Thomasson. Alors, il y a L'histoire à la carte, 42 km 195, Un été sans alcool, qui revient sur une période troublée de la France à l'époque de la Résistance. C'était en 2014 au Seuil. Ma petite Française au Seuil, où là, dans Ma petite Française, vous parlez de Berlin, une ville aussi qui vous est chère.
Oui, j'y suis allé pour la première fois, j'avais 15 ans. Ça fait donc aujourd'hui plus de 40 ans. Et j'ai été fasciné par cette ville quand on est un gamin de 15 ans, dans les années 70. Je sortais pour la première fois de chez moi, j'y allais pour améliorer mon allemand. Et on m'avait envoyé là-bas parce que des connaissances m'ont dit « Si tu vas apprendre l'allemand, il faut aller en Allemagne, va chez nos amis à Berlin. » Je débarque et je tombe en pleine guerre froide dans cette ville barrée par un mur, enfermée par Berlin-Ouest, enfermée par le mur. Donc où que vous alliez, vous tombiez sur le mur. Il y avait une atmosphère très particulière, à la fois d'enfermement donc, mais aussi d'exubérance. Peut-être dû à cet enfermement, les Berlinois de l'époque avaient une facilité d'inventivité, de construction. C'est à ce moment-là que la Philharmonique est née, par exemple, avec cette architecture très particulière. Il y a eu plein de choses qui sont passées, les cabarets, la culture underground, etc. Donc tout ça, ça m'a fasciné. J'ai beaucoup aimé Berlin. J'y suis revenu pendant des années, tous les étés, passé 2-3 mois d'été. Et j'y reviens encore pratiquement tous les ans. Là, je vais y aller très bientôt, avant l'été. J'ai encore gardé beaucoup d'amis. Et donc, je voulais raconter Berlin. Et j'ai choisi le symbole du mur de Berlin, qui est la barrière physique qui a séparé le peuple allemand en deux. Et pour marquer cela, ça a été mon effet miroir. J'ai inventé un personnage qui était une jeune fille homosexuelle, enfin, qu'il ne le savait pas, mais qui a découvert son homosexualité à Berlin. Et qui, du coup, a vu s'ériger autour d'elle des barrières morales, les préjugés, une forme de barrière. Et ce miroir entre les deux barrières physiques du mur et des préjugés que nous avons tous pour les uns et les autres, d'ailleurs des préjugés qu'on se crée parfois nous-mêmes ou qu'on nous impose, m'avait beaucoup intéressé de manière littéraire.
Alors Bernard Thomasson, vous êtes aussi un passionné de météorologie.
Oui, j'ai travaillé pendant 15 ans sur une chaîne qui s'appelle la chaîne Météo. J'ai écrit un guide, le guide de voyage météo pour dire aux gens... Parce que souvent les guides de voyage, vous savez, c'est pays par pays. On dit tiens, le Nicaragua, la Malaisie, etc. Et dans le chapitre du pays, on vous dit la période où il faut y aller. Sauf que maintenant, les gens partent de plus en plus un peu au débeauté. Tiens, là, dans 3 semaines, j'ai une RTT ou j'ai 15 jours, j'ai une semaine, qu'est-ce que je peux faire? Donc moi, j'ai écrit un guide avec mon ami Louis Baudin, qui est météo sur TF1. C'est l'inverse. La carte d'entrée, c'est les mois, donc janvier, février, mars, avril. Janvier, où est-ce qu'on peut aller? Les meilleurs endroits pour aller, c'est l'Asie du Sud-Est, parce que c'est la période la plus chaude, la plus sympa, la plus agréable, la plus confortable. C'est aussi les Antilles, parce qu'il n'y a pas les cyclones. Voilà. Donc j'ai créé ce guide un peu à contre-courant, qui a très très bien marché, parce que c'était assez inédit.
Alors en regardant votre site internet, Bernard Thomasson, j'ai appris aussi que vous avez été basketteur et arbitre en National 3 et 4 dans les années 80.
Oui, j'ai fait 30 ans de basket. À l'époque, j'étais parmi les grands. Et plus j'avançais dans ma carrière, et plus je devenais un petit. C'est-à-dire que les Américains ont commencé à débarquer dans ces années-là. Moi, j'étais en National 3, je jouais en National 3. J'ai commencé ma carrière comme pivot. Donc, c'est les grands qui sont au milieu, qui rattrapent les balles, qui les mettent dans le panier. Et au bout de 3-4 ans, hop, les Américains débarquaient. Eux, ils faisaient 2 mètres, 2m10, alors que moi, je fais 1m90, mais pas tout à fait. Et donc, du coup, je suis devenu ailier. C'est-à-dire qu'on m'a mis sur le côté, hop, tu tires de loin parce que t'es plus assez grand pour aller sous les panneaux. Bon, puis j'étais arbitre aussi, à un certain niveau, c'était un plaisir. Il se trouve que, passé un certain âge, le basket, c'était devenu très compliqué pour la vie familiale, etc. Et donc, j'ai commencé à courir parce que c'est plus simple de courir tout seul, dans la nature, à son rythme, quand on veut, le matin, le soir. On n'a pas besoin d'être en entraînement d'équipe. Et c'est là que m'a pris le virus du marathon. Donc, j'ai couru une vingtaine de marathons, ce qui m'a permis d'écrire un roman sur le marathon.
C'est donc le 42 km 195. Hein.
Qui est la distance du marathon, 42 km 195. Et donc le roman fait 42 chapitres, 42 km, 42 chapitres. Et on parcourt le marathon de Paris. Nous sommes ici à la foire d'Autun qui se déroule le jour même du marathon. Donc voilà, j'ai une pensée pour les marathoniens. On parcourt le marathon de Paris. On vit l'histoire du marathon depuis la fameuse bataille de marathon, les guerres médiques, les Grecs contre les Perses. On vit 42 marathons dans le monde parce que je fais des ellipses pour aller visiter les marathons du monde. C'est aussi une très belle aventure littéraire, géographique, humaine. C'est une petite ovni, c'est un roman un peu particulier. Mais alors lui, il a, pour le coup, été repris, il va sortir en poche, il est sorti en audio parce que les coureurs aiment comprendre pourquoi ils courent. Il y a aussi beaucoup de psychologie, la mentalité du marathonien, c'est très important. Et donc beaucoup de gens se retrouvent dans ce livre et j'en suis très content. Il y a une petite communauté, on m'écrit encore beaucoup pour me parler de ce livre.
Alors on peut avoir une vingtaine de marathons à son actif, avoir une allure très athlétique et être un gourmand et amoureux de l'histoire. Parce que je voudrais parler avec vous, Bernard, de l'histoire à la carte que vous avez écrit avec le chef doublement et Thierry Marx, c'est aussi une chronique qu'on entend assez régulièrement sur France Info. Un petit mot sur ce travail, sur ce livre élégant, attrayant et gourmand.
On peut aimer la bonne nourriture même quand on est sportif. Le tout, c'est de savoir... D'ailleurs, la nutrition pour le sportif est fondamentale. Le tout, c'est de savoir manger les produits frais, les bons produits, de manière raisonnée, de manière équilibrée. Et je crois qu'on peut marier les deux avec grand plaisir et grand talent. C'est ce que fait d'ailleurs Thierry Marx, qui a couru lui-même plusieurs marathons, qui est un judoka de très haut niveau. Et je peux vous dire qu'il est affûté. Il a repris du poil de la bête. Là, il s'entraîne beaucoup.
Mais il a moins de poils que vous sur la tête, quand même.
Hein. Il a repris du poil de la bête, mais pas où il faut, peut-être. Petit clin d'œil à Thierry. Non, c'est le plaisir de ce livre, c'est d'abord de raconter l'histoire des plats. Parce que la cuisine, la grande cuisine, la gastronomie, même la cuisine de tout le monde d'ailleurs, de monsieur et madame tout le monde dans sa cuisine, c'est pas simplement une alchimie d'ingrédients, c'est pas mettre du sel, du poivre, du beurre, mettre de l'œuf, mélanger, etc. Les plats sont nés dans la société, avec l'évolution de la société, avec l'évolution des hommes, l'évolution des technologies. Quand les nouveaux produits sont apparus, quand des nouvelles techniques sont apparues, la cuisine a évolué. Et donc avec Thierry, on a voulu raconter ça. On a voulu aussi raconter les plats avec les hommes qui en sont à l'origine. Par exemple, je pense là au lièvre à la royale, qui est un lièvre extrêmement fondant, qu'on peut manger quasiment à la cuillère, qui a été inventé par les cuisiniers de Louis XIV, tout simplement parce que ce monarque-là a eu beaucoup de problèmes de santé dans sa vie, et notamment des problèmes de bouche, des problèmes de dents. Et dans les 10-15 dernières années de sa vie, il n'avait plus de dents, il était complètement édenté. Il vient comme ça, vous voyez bien. Un cendant à la tête de la France, quand même, à l'époque.
Oui. Hein, ça...
Petit clin d'œil, là aussi, politique. Et du coup, il a demandé il voulait quand même manger du gibier, parce que c'était un grand chasseur. Il a dit, trouvez-moi un truc, je veux manger du... Donc, on faisait cuire le lièvre de manière tellement soutenu qu'il devenait fondant, fondant, fondant. On reconstituait le lièvre, on mettait la peau, on le refaisait. Souvent, on le garnissait un peu de foie gras, de choses un peu pour l'agrémenter. On le présentait au roi, lièvre à la royale, quand même. Et là, on le coupait en tranches et le roi pouvait le manger sans le mâcher. Voilà, c'est une histoire de plat qui est formidable. Il y en a plein comme ça. Le Paris-Brest qui a été créé pour la course entre Paris et Brest à l'époque 1900. C'est le tournant du siècle. Le pneumatique a été inventé par Michelin. Donc les vélos ont des pneumatiques. Ils vont plus vite, sont plus confortables. Il y a des courses qui se créent. Le Paris-Bordeaux qui sont soutenues par des journaux de l'époque sportif. Et il y a un journaliste dans un journal sportif qui dit « Mais Bordeaux-Paris, c'est sympa. Moi, je vais faire une vraie course. On va faire Paris-Brest-Paris-retour. » Et pour faire ça, il dit « Je veux un élément un peu majeur, un truc qui marque le coup. » Il a son copain boulanger à Maison Lafitte. Il lui fait « Fais-moi un gâteau qui marque le Paris-Brest. » Le mec invente le gâteau en roue de vélo. C'est la forme d'une roue de vélo. Il met la crème pâtissière avec les noisettes, praline. Et c'est comme ça qu'est né le Paris-Brest. Et dans la foulée de la course Paris-Brest, quelques années plus tard, en 1901, naît le Tour de France. Parce qu'il y en a un autre qui a dit « Ouais, Paris-Brest, c'est ridicule, moi je vais faire un truc encore plus fort, on va faire le Tour de France, monsieur !» Voilà. Donc la gastronomie s'inscrit aussi dans l'histoire en général, c'est formidable.
Alors c'est vrai que vous parlez aussi de la choucroute. Alors j'ai appris que c'était un plat inventé par les Chinois il y a des millénaires. Moi je pensais que c'était d'origine allemande, puisque je crois que ça vient de l'allemand « Sauerkrauten », je crois que ça veut dire herbe salée, me semble-t-il.
Vous avez raison sur les deux points, c'est-à-dire que le chou fermenté a été inventé par les Chinois. Et de manière anecdotique, pendant des périodes... Alors moi, je n'ai pas été vérifié, mais c'est ce qui se dit beaucoup, et c'est peut-être une légende, mais elle est tellement belle qu'on peut la rapporter. Mais je crois que c'est aussi dans la vérité. Les Chinois qui mangeaient beaucoup de choux, en construisant la Grande Muraille de Chine, ont été pris parfois dans les tempêtes de neige. Donc ils partaient précipitamment, ils laissaient les choux et le chou fermenter sous la neige. Et quand ils sont revenus, ils se sont aperçus que c'était très bon. Et ils ont trouvé cette technique pour fermenter le chou. Donc ils ont gardé le chou comme ça. La recette est partie en Europe centrale avec les invasions des Huns et des autres aussi, enfin de tous ceux qui ont parcouru l'Europe. C'est passé par l'Allemagne, et là vous avez encore raison, puisque les Allemands l'ont repris à leur sauce, si on peut dire. Le Sauerkraut, c'est effectivement le chou un peu acide, un peu amer. C'est passé par l'Alsace, où les Alsaciens ont rajouté la saucisse, le morceau de viande, le lard, etc. Et en fait c'est arrivé en France, avec la guerre de 1870, quand l'Alsace et la Moselle ont été envahies par les Prussiens, les Alsaciens ont été chassés pour ceux qui ne voulaient pas subir le joug de la Prusse. Et par exemple, Édouard Lippe, qui est un Alsacien, est arrivé boulevard Saint-Germain à Paris. Alors il a ouvert une brasserie qui ne s'appelait pas encore la brasserie Lippe, mais la brasserie des Bords de Rhin. Et là, il a amené la choucroute, et les Parisiens ont découvert la choucroute. Ils ont dit « c'est super bon, c'est copieux, c'est goûteux ». C'est génial comme plat, et la choucroute est devenue un plat national comme ça.
C'est un peu comme le petit salé qui, lui, a connu un véritable succès grâce à l'arrivée des Auvergnats. Absolument. À Paris. Là, vous parlez le Front Populaire, par exemple, c'est un petit peu
les guinguettes.
Les guinguettes, les moules frites.
Absolument. Tout chaque plat est rapporté à des histoires d'hommes, l'histoire de la France. C'est ça qui est passionnant, c'est que la cuisine, ça fait aussi partie de notre patrimoine. On le dit de manière un peu générique. D'ailleurs, elle est entrée au patrimoine mondial de l'humanité culinaire, mais en réalité, c'est que la cuisine appartient à ceux qui l'ont faite et qui continuent de la faire. Et alors, ça continue.
Alors Bernard, est-ce que je peux abuser encore un petit peu de votre temps en vous demandant de nous parler de la mère Poulard?
La mère Poulard, alors elle a trouvé une idée géniale. Elle est née, elle est pas loin d'ici d'ailleurs, elle est de la Haute-Saône, je crois. Et elle est partie épouser, elle était servante chez un type qui s'occupait des beaux-arts, des monuments des beaux-arts de France, qui a été nommé pour la restauration, déjà à l'époque, au milieu du 19e siècle, 1850 et quelques, la restauration du Mont-Saint-Michel. Il a amené avec lui dans ses valises cette bonne à tout faire pour ses gamins. Et elle est arrivée là-bas, elle est tombée amoureuse du boulanger qui s'appelait Poulard, Monsieur Poulard, Victor Poulard. Et ils ont ouvert un petit restaurant. Et elle a remarqué que les gens arrivaient un peu n'importe quand, parce qu'il n'y avait pas encore la jetée, le pont. Donc les gens arrivaient par bateau avec les marées. Et les marées, il n'y a pas d'heure pour les marées. C'est le jour, la nuit, le soir, le matin. Et les gens qui arrivaient étaient affamés, et donc elle a trouvé l'idée de génie. On va leur faire un truc facile à faire, qui garnit bien, qui est costaud, qui rassasie, qui coûte pas très cher. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé l'idée de l'omelette. Elle a fait une omelette à sa façon. Et puis c'est devenu un peu maintenant un folklore. On bat les œufs, c'est tac, 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 tac. Mais c'est comme ça qu'est née l'omelette de la mère Poulard, parce qu'elle l'offrait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On toquait à sa porte, j'ai faim, une omelette, monsieur.
Merci Bernard Thomasson.
C'est un plaisir.
Notre wagon livre touche à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que si vous avez manqué le début de cette émission, vous allez la retrouver d'ici quelques heures, disponible à l'écoute sur le site d'archives de Wagon Livre. Il suffit par internet de pianoter le www.yannickpetit.fr et vous retrouverez à la fois le son, mais également toutes les références des ouvrages dont il a été question au cours de notre rendez-vous littéraire. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne nuit, mais juste avant, Je vous communique le programme de l'émission de la semaine prochaine. La semaine prochaine, toujours sur Radion à partir de 21h, nous recevrons René Daudan, agriculteur, poète et chanteur. René Daudan viendra dans nos studios accompagné de Raphaël Darley et de Jean-Jacques Ricard pour mettre en lumière le festival Les Ruraleuses. Le festival Les Ruraleuses va se tenir les 26, 27 et 28 mai prochains au château de Julie. C'est dans le Tonnerrois, c'est à quelques kilomètres d'Ancy-le-Franc, à une trentaine de kilomètres d'Auxerre et à une quarantaine de kilomètres d'Avallon. Ce festival Les Ruraleuses qui rendra hommage au poète, chanteur et musicien Léo Ferré. Ce sera vraiment pour nous l'occasion à la fois de décliner le programme de ce festival, mais aussi de revenir sur la vie et l'œuvre de Léo Ferré. C'est donc le rendez-vous que nous vous proposons mercredi prochain 17 mai à 21h sur Radion 90.5 dans Lyon ou aux quatre coins de la Bourgogne et de France via internet sur le www.radion.fr. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Très bonne soirée à l'écoute des programmes de Radion. Je vous remercie encore et je vous salue. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.